d'écouter RFI. Il est 18h ici à Paris, 16h temps universel, midi à Washington.
Le journal en français facile. Margot Ratézic.
Mercredi 30 avril, bienvenue dans cette édition largement consacrée aux 100 jours depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous entendrez les réactions d'électeurs républicains en Géorgie qui, malgré l'offensive commerciale, continuent de soutenir Donald Trump. Je vous emmènerai également en Ukraine où les espoirs de paix s'essoufflent, faiblissent face à la position très changeante du président américain. Et nous nous intéresserons à l'économie américaine et à cette chute surprise du produit intérieur brut. Enfin, à l'occasion de l'anniversaire de la chute de Saïgon, nous vous proposerons des témoignages d'enfants vietnamiens évacués du pays puis adoptés. 50 ans après, ils racontent leurs souvenirs. Cela fait aujourd'hui 100 jours que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Les 100 jours les plus réussis de l'histoire du pays, d'après le président américain, fidèle à lui-même donc, adepte, coutumier des déclarations choc. On retient aussi l'offensive commerciale lancée par le milliardaire et un niveau historiquement bas dans les sondages. Seuls 39% des Américains approuvent la politique Trump. C'est le chiffre le plus faible pour un président américain après 100 jours. Mais le président républicain peut toujours compter sur le soutien de ses électeurs. Édouard Maille a rencontré certains d'entre eux à Cumming, en Géorgie.
Une trentaine de personnes discutent pendant cette réunion mensuelle du Parti républicain local. Greg Spritzer est ravi du début du mandat de Donald Trump.
Il démarre très fort et essaye de changer les choses, même s'il fait face à beaucoup de résistance de la part de ceux qui n'aiment pas le changement.
William Freeman, lui, un responsable républicain local, se félicite des coupes budgétaires menées par le département de l'efficacité et Elon Musk.
Je n'avais pas réalisé la quantité de fraude et de gaspillage des dépenses du gouvernement jusqu'à ce que cela soit révélé.
Parmi toutes les politiques du président, Kathleen, elle, se réjouit surtout de celles menées contre l'immigration.
Je suis particulièrement heureuse qu'il ait fermé la frontière dans le sud du pays et qu'il ait réduit le nombre de migrants illégaux. Et je suis contente qu'il les expulse.
Mais seul bémol pour la retraitée, le risque que les droits de douane augmentent le coût de la vie et mettent à mal la relation avec les pays alliés des États-Unis. Édouard Maille, Cumming en Géorgie, RFI.
La présidence Trump et ses conséquences sur l'Ukraine. Le locataire de la Maison-Blanche avait assuré qu'il mettrait fin au conflit en 24 heures seulement. Pourtant, aucun cessez-le-feu durable n'a été obtenu. Entre la confrontation avec Volodymyr Zelensky à Washington, la suspension de l'aide américaine et le rapprochement avec Vladimir Poutine, on peut dire que Donald Trump a multiplié les critiques envers la position de Kiev dans cette guerre. Et sur place, justement, on ne prête désormais plus attention au discours très changeant du président américain.
Je n'y croyais pas avant, je n'y crois pas maintenant et je n'y croirai jamais. La victoire dans cette guerre ne peut être obtenue que par les forces de l'Ukraine et non par celles de pays tiers. Quant à Trump, je considère toutes ses actions comme un populisme banal et grotesque.
En tant que fille, doublement fille de militaire, mon père biologique est mort au front et mon beau-père combat actuellement sur le front. Franchement, je n'y crois pas vraiment à ces paroles. Cela fait déjà 3 ans que l'invasion à grande échelle a commencé, presque 11 ans de guerre en Ukraine. Il me semble qu'une seule personne ne pourra jamais y mettre fin.
Réaction d'Ukrainiens aux 100 jours de Donald Trump au pouvoir, au micro de Cerise Sudry-Ledu. Kiev dit s'attendre à signer ce mercredi l'accord sur les minerais stratégiques, un accord âprement, durement négocié avec les États-Unis. Le texte vise à leur donner un accès aux minerais ukrainiens. C'est un recul surprise. Le PIB, le produit intérieur brut américain, a affiché une baisse de 0,3% au premier trimestre. Donald Trump avait pourtant promis de rendre les États-Unis plus riches, Agnieszka Kumor.
Le recul de la croissance économique américaine a surpris comparé à la fin 2024. La première économie mondiale affichait à l'époque une progression de 2,4% du plein emploi et une inflation presque maîtrisée. C'est la baisse des dépenses de l'État fédéral et la hausse des importations qui sont à l'origine de ce brusque changement. Les distributeurs ont choisi de remplir leurs entrepôts afin de profiter de meilleurs prix avant l'arrivée des surtaxes douanières. À la bourse de Wall Street, on est inquiet et le secteur privé ne crée plus autant d'emplois qu'il y a quelques mois. Un effet boule de neige n'est pas à exclure. Les consommateurs américains hésitent. Les distributeurs ont moins de biens à vendre, les transporteurs moins de marchandises à convoyer et l'on craint de possibles plans sociaux. Contrairement aux objectifs de Donald Trump, les États-Unis ne produisent pas encore davantage, alors que désormais, ils ne peuvent plus acheter bon marché à l'étranger en raison des taxes.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI. Les secours israéliens en alerte. Plusieurs importants incendies ont été recensés, enregistrés, notamment à l'ouest de Jérusalem. Plusieurs personnes ont été blessées légèrement. Des communes ont été évacuées. L'armée a été déployée sur place. C'était il y a tout juste 50 ans, le 30 avril 1975, Saïgon, la capitale du Sud-Vietnam, tombait aux mains des troupes du Nord. Un événement qui a mis fin à des décennies, à des dizaines d'années de guerre. Et je vous propose aujourd'hui de revenir sur l'opération Baby Lift. Lors des derniers jours du conflit, les États-Unis ont mobilisé 2 milliards de dollars pour une vaste opération. Plus de 3 000 enfants ont été évacués puis adoptés en Amérique du Nord, en Europe ou en Australie. Et grâce à des archives et des témoignages, Chi Phung Nguyen du service vietnamien de RFI a pu remonter pour nous le fil de cette histoire racontée par Nicolas Roca.
Début avril 1975, Philip Wise, infirmier militaire américain, apprend qu'il participera à une gigantesque opération d'évacuation.
Le commandant a dit « Écoutez, Saïgon va bientôt tomber et il y a un groupe d'orphelins métis américains qui sont piégés dans Saïgon. Ils doivent être évacués immédiatement. »
Des enfants de soldats ou des orphelins partent avec un premier avion. 300 personnes sont à bord quand quelques minutes après le décollage, l'appareil atterrit en catastrophe dans une rizière. Devaki Murch était à bord.
J'étais un des enfants embarqués dans l'avion. Nous avons eu de la chance que le pilote parvienne à atterrir en urgence. Le compartiment réservé aux soldats est resté debout. S'il avait basculé ou s'il s'était brisé, il y aurait peut-être eu plus de dégâts.
Plus de 150 personnes meurent. Les enfants survivants sont adoptés aux États-Unis ou en Europe. Sandy Kersi arrive en France. Plus tard, devenue adulte, elle retourne au Vietnam à la recherche de ses origines.
J'ai retrouvé en fait ma nourrice. Et un jour, elle m'a dit, mais tu sais, quand j'étais avec les responsables d'associations, ben on savait que si on allait voir telle dame, un échange de quelques centaines de dollars, on savait qu'on pouvait avoir des bébés, quoi, des nourrissons.
Présentée comme une opération humanitaire en Occident, au Vietnam, l'affaire est aussi perçue comme un kidnapping de masse. Certains des enfants n'étaient pas orphelins.
Nicolas Roca du service international de RFI. Le Pakistan se prépare à une attaque indienne imminente, autrement dit dans un futur proche. Ces craintes d'Islamabad surviennent après l'autorisation de représailles formulée par le premier ministre indien Narendra Modi. New Delhi accuse son voisin pakistanais d'être responsable de l'attentat meurtrier au Cachemire il y a une semaine. Un mot de football pour clore ce journal. Ce soir, suite des demi-finales aller de Ligue des Champions, le FC Barcelone affrontera l'Inter Milan et ce sera à 19h, temps universel. Il est bientôt 18h10, ici à Paris, 16h10, temps universel. C'est la fin de ce journal que vous pouvez réécouter en podcast sur françaisfacile.rfi.fr.